La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
L'an 1 de la Révolution, comme si vous y étiez. Comment un tel bouleversement politique s'est-il opéré il y a 230 ans ? Témoignage à hauteur d'homme et de femme. Par Antoine Debecq, historien, professeur à l'École normale supérieure. Louis-Michel Lepelletier de Saint-Fargeau est à la veille de la Révolution française l'un des juristes les plus renommés du pays. Il est avocat général au Parlement de Paris, où il préside la Chambre des Vacations. Il n'a pas 30 ans quand il est élu député de la noblesse aux États généraux du Royaume à la fin de l'année 1788. Il reniera bientôt ses origines nobles pour devenir l'un des avocats les plus ardents des revendications populaires. D'origine bourguignonne, sa famille est implantée au château de Saint-Fargeau, au sud d'Auxerre. Jeune veuf, il est très attaché à sa fille Louise-Suzanne, qui vient de terminer ses études chez les religieuses de la congrégation Notre-Dame de Beaune. Le père et la fille très complices échangent une importante correspondance qui couvre la première année de la Révolution. Restée au château bourguignon, Louise-Suzanne souhaite ardemment recevoir des nouvelles de la capitale, vivant cette année sans pareil par procuration. Elle oublie l'éducation des religieuses et se montre tout à fait incrédule. Les débuts de la Révolution la font plus radicale encore. Si avant de paraître au monde, on m'eût donné le choix du gouvernement, je me serais déterminé par caractère pour une république, lance-t-elle dans une lettre à son père, dont elle admire l'engagement politique.
Il n'y a que les gens qui aiment rire qui sont sérieux. Vous êtes sur Sirius Audio.
À Versailles, les États généraux. Le 4 mai 1789, s'ouvrent les États généraux du Royaume à Versailles. Lepelletier s'assoit dans les rangs de la noblesse, placé à droite du trône. Un bon millier de députés sont réunis dans l'immense salle de l'Hôtel des Menus Plaisirs pour écouter les longs discours du roi, puis de Necker, son principal ministre. Même si l'ennui domine, rien n'empêche l'esprit de réforme de se manifester dans cette cérémonie un peu guindée. « Il règne une grande ferveur », écrit l'apprenti député à sa fille. « La réforme nécessaire du royaume est ici sur toutes les lèvres. Quand le roi et la reine ont fait leur apparition sous le dais monarchique, tous, nous avons été transportés d'enthousiasme. Puisse cet espoir se confirmer dans les jours prochains. » Pour lui, il ne fait guère de doute que la régénération française est en cours. Le 14 juin, Lepelletier relate à sa fille une séance au Club Breton, l'un de ces espaces laboratoires de la politique nouvelle. Non loin de la salle des menus plaisirs, au café Amaury, assis autour d'une grande table, plusieurs députés clubistes discutent et préparent l'ordre du jour du lendemain. Ils ont pris l'habitude d'étudier et de décider ici ce qu'ils voteront ensuite lors des États généraux. Emmanuel Sieyès, auteur de la brochure « Qu'est-ce que le tiers-État ?», est un des plus radicaux et lance « Coupons le câble, il est temps ». Lepelletier ne peut qu'approuver cette volonté d'en finir avec l'Ancien Régime et de passer à un nouveau monde. Mais d'autres sont moins téméraires.
L'éléphant et Sirius Audio, vous allez voir ce que vous allez entendre.
Que va penser le roi de cette audace ? Lepelletier prend la parole. De sa voix décidée, coupante, il s'emporte. L'Assemblée doit ou périr ou avancer, faire un pas décisif. Elle doit envisager hardiment la situation. Le droit en face du privilège, le droit de la nation concentré dans l'Assemblée. Et il ne suffit pas de voir cela, il faut le voir et le dire et le promulguer en donnant à notre Assemblée son vrai nom, Assemblée nationale. Ce titre, Sieyès l'approuve de rechef. L'Assemblée nationale est fondée, elle vit. Le lendemain, les États généraux adoptent cette dénomination révolutionnaire. À la Bastille. Lepelletier est revenu à Paris le 10 juillet, séjournant quelque temps dans son hôtel particulier au 29 de la rue de Sévigné dans le Marais. C'est de là qu'il assiste à la montée de la mobilisation et qu'il peut ainsi raconter à sa fille les quelques heures d'émeute aboutissant le 14 juillet à la prise de la forteresse royale de la Bastille, non loin. Il voit passer sous ses fenêtres le long cortège des assaillants aux uniformes dépareillés, à dominante bleue, qui s'ébroue dans un bruit d'enfer, traînant quelques canons Les tambours battant la générale, quelques officiers hurlant les ordres. D'autres troupes, telles des affluents plus ou moins larges, rejoignent le lit principal du fleuve humain qui traverse Paris. Le pelletier suit les assaillants avec quelques hommes à lui. Il entend un roulement de tambour, des tirs de sommation, puis voit au loin les premiers rangs décimés, les plus avancés. « Le feu a claqué comme le tonnerre, étagé de haut en bas de la forteresse », écrit-il, ému aux larmes. L'effet fut épouvantable. Le carnage a fait chanceler la masse des assaillants, s'affaissant sur elle-même. Plus de 100 hommes ont péri dans cet endroit fatal. Les combats marquent alors une pause. On compte les morts, on secourt les blessés, on recharge les fusils, on reprend son souffle, on boit un coup d'eau de vie. À l'avant-garde, les plus impatients se projettent à nouveau vers la Bastille. Le pelletier reprend dans une lettre datée du 15 juillet « Malgré les morts, les hommes continuent de progresser. Bientôt, les gardes de la forteresse sont dépassés en nombre par les forces adverses, soutenues par des canons. Dans la cour de la forteresse, le vent de l'histoire change de sens et le combat d'âme. Les chapeaux sont jetés en l'air, les fusils mis à bas, les cris de « Vive la nation » résonnent et les étreintes commencent. C'est la victoire. La foule des soldats envahit la cour et gagne les étages. Les gardes se retirent. Certains sont taillés en pièces par les assaillants, mais la plupart respectés, assure le pelletier. En revanche, le gouverneur de la Bastille, le marquis de Launay, est arrêté, conduit en place de grève, puis massacré par une foule en colère qui a perdu une centaine des siens. Sa tête est promenée au bout d'une pique par un cortège joyeux. Cette violence fait partie de la Révolution.
Le savoir par l'éléphant s'écoute sur Sirius Audio.
À Paris. Quelques mois plus tard, le 5 octobre 1789, c'est du retour des femmes de Versailles dont le député est le témoin et qu'il raconte à sa fille. Nous sommes passés près du Palais Royal à la salle de Balgarchi et là nous avons croisé un groupe assez nombreux et impressionnant des poissardes revenues de Versailles. Elles semblaient satisfaites, allant en goguette prendre du bon temps, dansant ensemble. Ces femmes fortes gueulent plutôt qu'elles ne parlent, mais elles nous ont montré le chemin, à l'avant-garde du convoi vers Versailles. Si elles disaient leur nom, on entendrait parler de Fine Mouche, Perrette la Douteuse, la Thomas, Madame Saumon, Madame Millegueule, Madame Engueule, Margot la Malpeignée. Bien campées sur leurs jambes, parfois énormes, coiffées d'un bonnet orné de fleurs, elles sont marchandes de marée, harangères, et l'odeur de poisson colle à leur peau autant qu'à leur surnom. En cette fin d'après-midi, elles trinquent et boivent car elles ont ramené de Versailles le roi et la reine pour les loger dans le palais des Tuileries au centre de Paris, donnant mine de rien un tour décisif à la Révolution. De leur côté, une fois installés dans la salle du manège qui borde les Tuileries, les députés de l'Assemblée nationale prennent de nouvelles habitudes, notamment au Palais Royal, où un groupe de patriotes investit le café de foie, accueilli par le couple Jousserot, qui apporte à la table glace, boissons et rafraîchissements. Ici s'invente dans la discussion le brouhaha constant des nouvelles pratiques politiques. Les prises de parole se succèdent, destinées à la cantonade. Quand un nouvel intervenant prend la parole, il s'installe rituellement au milieu de la table, qui est également le milieu de la salle. Par habitude, puisqu'il y revient plusieurs fois par semaine, le pelletier, l'un des meneurs, s'est installé à la gauche de l'orateur, y attirant ses partisans. En face, de l'autre côté de la table, s'assoient ses adversaires monarchistes. C'est lors de ces affrontements oratoires du café de foie que s'invente la bipartition de la politique en France. À petites habitudes, grandes conséquences.
Sirius Audio, vous allez voir ce que vous allez entendre.
Ainsi, la droite est associée au roi, à la tradition, à la religion. La gauche, quant à elle, est liée à la revendication, au mécontentement, à l'affranchissement par rapport aux croyances et à la monarchie. Cette géographie politique se transporte ensuite à l'Assemblée nationale, puis dans la vie politique française, jusqu'à nos jours. Un père et sa fille réunis dans la Révolution heureuse. En juin 1790, Louise Suzanne, qui insiste depuis quelques semaines dans ses lettres sur son désir de voir de ses yeux les événements parisiens, est enfin accueillie par son père à la capitale. Elle y parvient le jour même, où il prend la parole à l'Assemblée nationale, le 19 juin, pour appuyer la suppression des titres de noblesse. Il fait voter qu'aucun citoyen ne pourra porter d'autre nom que celui de sa famille réduit à sa plus simple portion. Dès le lendemain, le marquis de Saint-Fargeau ne signe plus que du nom rustre de Michel le Pelletier. Louise et son père sont désormais inséparables. Ils vont et vibrent ensemble au manège devant les interventions des grands orateurs. Mirabeau, Barnave, Robespierre, lui dans la salle de l'Assemblée, elle dans les tribunes très garnies du public qui assiste aux séances. La jeune fille attend souvent son père à la sortie, lorsque les travaux se terminent, vers les 7 heures du soir. Quand ils se retrouvent, le père et la fille traversent les Tuileries, marchant dans les jardins, non loin du palais du roi. Ils vont ensuite à travers le palais royal, contournant le cirque central en bois de forme ovale, se tenant par le bras, s'arrêtant de boutique en boutique. Là, ils commandent bibelots, estampes, caricatures, vêtements, livres, journaux, devant les innombrables vitrines des libraires, éditeurs et marchands d'images qui se succèdent sur 300 mètres. Un jour, le père offre à sa fille une gravure présentée sous le manteau, sur une planche de bois aussi vite installée que remballée.
Vous vous prenez au sérieux ? Parfait. Vous écoutez Sirius Audio.
L'image est extraite des essais historiques sur la vie de Marie-Antoinette. Et sa légende hypocrite les fait beaucoup rire. Nous avertissons par avance les pères de famille de ne pas laisser tomber ces images dans les mains de leurs enfants. Ces gravures libres pourraient bien produire sur eux des ravages dont ils se repentiraient. La gravure, qui a pour titre « L'art de foutre la reine », est ainsi commentée. « Bravo, bravo, la reine se pénètre de la patrie !» et montre Marie-Antoinette les cuisses ouvertes, accueillant un fougueux fédéré bien monté à Paris pour la prochaine fête de la Fédération. Le lendemain, Michel Le Pelletier entraîne sa fille au couvent des Jacobins rue Saint-Honoré. C'est là, dans ce lieu mal éclairé, que se tient la nouvelle société révolutionnaire qui prend bientôt le nom du couvent où elle siège. Flotte dans l'air d'innombrables particules de poussière ou de bois et on n'y voit qu'à moitié. Ce jour, grande réunion avec près de 30 citoyens inscrits pour parler. 10 fois plus autour pour écouter, réagir, juchés sur un léger gradin de bois branlant par endroits. Aux portes, pour viser les cartes et reconnaître le millier de membres, se tiennent 2 censeurs-portiers. Louise, quant à elle, prend bientôt ses habitudes au sous-sol, où une société de femmes tient ses réunions régulières. Ces 2 sociétés forment le cœur politique du Paris révolutionnaire. Là, hommes et femmes, séparés mais unis dans le même espoir, y apprennent la démocratie. Tous à la Fédération. Michel et Louise Le Pelletier sont au Champ de Mars le 14 juillet 1790 pour fêter le pacte fédératif, 1 an jour pour jour après l'événement fondateur.
Le savoir par l'éléphant s'écoute sur Sirius Audio.
Les jours précédents, ils ont participé aux préparatifs sur les remblais de la Grande Esplanade, transformé en chantier. Étonnant spectacle. Des hommes et des femmes de toute classe, de tout âge, jusqu'à des enfants, maniant la pioche et poussant les brouettes. Des orchestres animent ces travailleurs de terrassement, chantant le fameux air niveleur qui met Paris en feu. Assaïra, saïra, saïra, le peuple en ce jour sans cesse répète Assaïra, saïra, saïra, celui qui s'élève, on l'abaissera, celui qui s'abaisse, on l'enlèvera. Quand voilà le jour pour lequel tous sont trimés, il pleut. Le ciel est aristocrate, pense Louise, sarcastique, quand elle s'assoit en tribune entourée par 160 000 personnes. Devant elle se tiennent debout 150 000 autres. On se fait signe, on se répond par des échos et des clameurs. Au milieu passe le défilé de 50 000 hommes, dont plus de la moitié, les fédérés des provinces, sont montés des départements. Au centre du Champ de Mars, se tient l'hôtel de la patrie, près duquel siègent le roi et sa famille. Bailly et les principaux élus de la municipalité de Paris, ainsi que les députés de l'Assemblée nationale, dont Michel Le Pelletier, tout fier et ceinturé de tricolore. Lafayette arrive sur son cheval blanc, accompagnant la garde nationale. Il met pied à terre, parle roi, puis ouvre le rituel aux côtés de Talleyrand, l'évêque patriote d'Autun. 1200 musiciens entonnent l'hymne qu'il sera beau le jour de l'Alliance des Français. 40 pièces de canon y succèdent, faisant trembler la terre, et tous en chœur jurent serment de fidélité à la nation. Le soir, une autre fête commence, enivrante. Michel et Louise se rendent sur la place de l'ancienne forteresse de la Bastille, désormais détruite, où un orchestre joue les airs à la mode, matinée de refrains révolutionnaires.
Ça fait du bien, non ? Normal. Vous écoutez Sirius Audio.
60 000 personnes dansent autour d'un grand mât de cocagne, illuminé en bleu, blanc, rouge. À chaque heure, le canon est tiré, déclenchant des ovations fantastiques. Une fanfare déboule, précédant trois grands chars de fleurs tirés par des bœufs, d'où surgissent une multitude de femmes peu vêtues qui distribuent du vin en puisant dans des tonneaux. Un immense bûcher éclaire la nuit tandis que Parisiens et Parisiennes s'embrassent. Ce mouvement d'union enchante le père et la fille qui dansent en tournoyant, y voyant la réalisation d'un rêve fraternel, la révolution telle une communauté idéale. Épilogue. Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau sera assassiné par un royaliste le 20 janvier 1793, car il a voté la mort de Louis XVI. Louise, orpheline, sera alors adoptée par la République française, sur vote de la Convention, et sera la première pupille de la nation.
Retrouvez tous nos podcasts sur notre site serious.audio.
La Terreur. Texte d'Antoine de Bec. La terreur semble être un événement qui échappe à la raison, un moment où, comme l'écrit Jules Michelet, l'histoire sort de ses gonds. Pour tenter de comprendre ce qui échappe précisément à la compréhension, il faut se plonger dans le contexte du Paris révolutionnaire du printemps 1793, quand la peur s'y fait omniprésente. Cette révolution terrorisée est celle d'un pays assiégé par les armées de l'Europe coalisée, car les Prussiens sont aux portes de la Lorraine, les Autrichiens entourent l'île et les Espagnols occupent le Roussillon. Celle d'une nation en guerre civile, lorsque les protestations contre la levée en masse de 300 000 jeunes conscrits se transforment en rébellion ouverte, notamment en Vendée et dans l'Ouest. Celle d'une capitale obsédée par les complots qui se fomenteraient dans les prisons, dans les arrière-cours, voire au sein même de l'Assemblée nationale. Rarement, en effet, le peuple de Paris a-t-il eu aussi peur que durant ces quelques mois. Les récits cauchemardesques d'enfants nés difformes, à tête de monstres, blessés, mutilés, mis au monde par des mères sous le choc des événements dramatiques, fourmillent dans la presse du printemps et de l'été 1793. Les rumeurs d'attentats, d'assassinats, d'invasions, de complots, de carnages se multiplient, laissant de longues traînées d'effroi dans l'opinion. Enfin, les cadavres, ceux des martyrs de la Révolution, comme ceux des premiers coupables, exécutés ou massacrés, sont exposés au regard.
Vous écoutez Sirius Audio, c'est bien.
Des jugements rapides et sévères. Le cadavre est ainsi la forme de ce moment si singulier qui porte sa physionomie et dit sa politique. Elle en est la meurtrissure, visible par tous. Au nom de cette mort omniprésente et des peurs qu'elle engendre, les révolutionnaires, aussi bien que le peuple de Paris, réclament que d'autres souffrent à leur tour. Là se forge l'exigence de violence contre les ennemis de la République, quels qu'ils soient, soldats étrangers, rois d'Europe, nobles immigrés, factions corrompues, prêtres réfractaires, aristocrates comploteurs et simples suspects. Contre eux, de plus en plus nombreux et insaisissables, se répand la demande de terreur. Politiquement, il s'agit d'instaurer un régime d'exception suspendant les libertés au nom de la patrie en danger, instituant un tribunal révolutionnaire qui juge les suspects de plus en plus rapidement et sévèrement. Un régime permettant qu'on soit terrible avec tous les ennemis de la patrie. Entre le printemps et l'automne 1793, la République, via son organe de gouvernement, le Comité de salut public, met ainsi en place par le vote de la Convention nationale une série de lois, de décrets, d'institutions d'exception, dans le but de terroriser les ennemis. Loi des suspects, règlement du tribunal révolutionnaire, comité de surveillance, processus d'arrestation et d'exécution publique. Répression d'État qu'on nomme terreur et qui, en une année, fait près de 3000 victimes guillotinées à Paris. Cette demande de terreur trouve en effet son expression la plus tranchante dans l'outil qu'elle promeut et qu'elle utilise, la guillotine.
L'éléphant est Sirius Audio.
Elle est aussi omniprésente au centre de Paris comme au cœur de l'imaginaire. La prolifération des sobriquets affectueux ou des surnoms respectueux qui la désignent en témoigne. On parle de raccourcissement patriotique, d'essayer la cravate à Sanson ou la cravate à Capet, de passer par la petite chatière, d'éternuer dans la sciure, de faire feu des quatre pieds, de jouer à la main chaude, de passer la tête dans la lunette, de mettre la tête au guichet, de regarder par la lucarne, d'aller à la bascule à Charlot, d'ouvrir le vasistas, de faire marcher la planche à Assignat, d'aller à l'abbaye de Saint-Pierre et à celle de Mont-à-Regret, ou alors de Sainte-Guillotine, de Lame républicaine, de Rasoir patriotique, de Glaive des lois. En quelques mois, la guillotine est devenue le quotidien de la Révolution et son icône funèbre. Pourtant, il n'existe pas de système de la terreur. Ainsi, une expression supposée d'époque, la mise à l'ordre du jour de la terreur, ne fut jamais déclarée, ni par la Convention, ni par le Comité de salut public. La terreur ressemble davantage à une forme de négociation, permanente et urgente, entre les forces contradictoires du moment, le peuple de Paris et ses exigences, les différentes factions politiques qui luttent pour le pouvoir, à un équilibre instable entre justice et répression, législation et action, bon gouvernement et usage de la violence. In fine, c'est une sorte de bricolage politique paré des valeurs de la République, la liberté, l'égalité et surtout, la vertu.
Sirius Audio, vous allez voir ce que vous allez entendre.
Le passage obligé. Les historiens, dès l'époque, se sont beaucoup interrogés sur la terreur. Pour la tradition contre-révolutionnaire, elle demeure une régression barbare et semble inhérente au discours des républicains. Pour la filiation jacobine, elle figure un sursaut d'orgueil qui permet de gouverner et de sauver la France. Pour la mouvance critique, autour des historiens François Furet et Mona Ozouf, elle reste une parenthèse, voire un dérapage inexplicable. Comment la terreur a-t-elle été possible ? Comment expliquer son surgissement ? Ce que l'on peut tenir en une interrogation obsessionnelle, d'où vient la terreur ? Qui est formulée dès la mort de Robespierre, incarnation du comité de salut public, renversé et exécuté en Terminor en 2, juillet 1794, quand, et tous sont là d'accord sur ce point, la terreur prend fin. La terreur fut une circonstance exceptionnelle, imposée par une histoire elle-même exceptionnelle, mais elle appartient également à la nature même de la violence révolutionnaire. Elle est le passage obligé de la Révolution. Elle figure la fille légitime et illégitime tout à la fois de la République. La terreur est l'expérimentation politique des récits macabres qui habitent les fictions de la fin des Lumières. La transcription juridique et légale des cadavres qui jette la peur dans les représentations. En mettant en pratique, selon un système politique aussi exceptionnel qu'implacable, la fiction romanesque, contemporaine, gothique de la mort, elle correspond au moment de la perte d'innocence dans l'évolution de la démocratie moderne. En cela, la Révolution figure le passage d'une socialisation pensée, rêvée sans doute, comme optimiste, à une socialisation vécue comme douloureuse, intégrant l'exclusion, la surveillance, et la punition terrible aux moyens pédagogiques de promotion de la vertu.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.